à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Le pueblo unido jamás será vencido.
Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Wakadi, on a quelque chose à dire, c'est parti. Une émission sur l'actualité sociale animée aujourd'hui par Jean-Jacques, Séverine et moi-même Guillaume. Galade assure la technique. Bonjour à tous.
Bonjour.
Aujourd'hui, une émission historique. Eh oui, une émission historique, et le mot est choisi, car nous enregistrons cette émission le 11 octobre. Et outre le fait que c'est aujourd'hui mon anniversaire de mariage,
waouh, génial,
nous sommes à la veille d'un jour de mobilisation et de lutte. Eh ben non, je suis bien avec vous, mais ça sera l'objet d'une autre émission. Donc ce que je disais donc, c'est que nous sommes à la veille d'un jour de mobilisation peut-être historique. Pourquoi ? Parce que historiquement, ça sera soit le début d'une mobilisation d'ampleur, de blocage de pays et de grève générale, avec une détermination massive des salariés et des citoyens, ou au contraire.
On veut pas savoir la suite, je crois que c'est
une énième, une énième défaite sociale qui pourrait que marquer l'accentuation des reculs, selon les experts bien renseignés. Pour entrer dans l'histoire avec nous sur Radio Clapas, nous accueillons aujourd'hui Maurice Sanson, un invité qui a quelque chose à dire. Maurice Sanson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cheminot à la retraite et toujours en charge du dossier retraite à la Fédération CGT. Vous avez participé à la négociation des régimes spéciaux de 2007. On va essayer avec vous de raccrocher les wagons de cette réforme et de rentrer dans les détails. Vous avez vu le jeu de mots ?
Raccrocher les wagons,
avec un cheminot, fort, tout ça, ouais. Voilà.
Magnifique.
Système par répartition, régimes spéciaux, arguments démographiques, tout ça, vous allez nous expliquer tout ça. Avant ça, on vous propose de plonger dans la manifestation de Montpellier du samedi 2 octobre 2010. On y retrouve une contre-manifestation de droite. Comment être drôle en poussant les argumentations idiotes à leur paroxysme.
Quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Donc on est sur cette émission Wakadi sur Radio Clapas, et avant de rentrer dans le vif du sujet avec Maurice Sanson, on va prendre deux minutes parce que Jean-Jacques a quitté la platine pour nous expliquer quoi, Jean-Jacques ?
Alors, expliquer, je crois que j'en serais pas capable, mais j'aurais voulu vous parler, vous allez voir, amateur de Wakadi, que j'en parle beaucoup, de Franck Lepage, c'est ça, des conférences gesticulées, vous en avez marre. Mais non, en fait, hier, à Montpellier, il y avait une sorte de rejeton de Franck Lepage, quelqu'un qui a été formé par lui, qui faisait une conférence gesticulée sur le même mode. Alors, il s'appelle Alex Somoza, et alors son titre, vous allez voir, c'est super rapide, « Une histoire personnelle de schizophrénie militante » ou « Pourquoi l'éducation au développement durable ne changera pas le monde ». Ça, c'est le titre de ce qu'il a fait pendant donc 2 jours hier, et c'était encore aujourd'hui, au Baloir. Et pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que j'ai trouvé ça, comme le fait Franck Lepage, assez génial. C'est-à-dire, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est à la fois une conférence qui bouge comme du théâtre, mais qui s'appuie sur deux vecteurs, ce qu'ils appellent le savoir chaud et le savoir froid. Alors le savoir chaud, c'est notre expérience personnelle, ce qu'on vit nous-mêmes. Donc le gars, il raconte son propre parcours de vie, combien il a hésité dans ses actes militants, il était avec des reggae-man, il a essayé de changer le monde pendant un temps en fumant des pétards, puis il est allé voir du côté du parcours politique, puis ensuite il est allé voir dans les acteurs du développement durable à essayer de se dire que sa place sur Terre pour changer ces inégalités, c'était essayer de se mettre à militer dans l'aide aux pays du Sud. Et il raconte son parcours là, avec beaucoup d'autodérision, et il mélange ça avec un savoir froid, c'est-à-dire le savoir vraiment pour le coup des intellectuels. Donc lui, c'est Miguel Benassayac, dont il parle beaucoup, et Hervé Kempf. Et dans sa conférence, il n'arrête pas de jongler entre donc, son parcours de vie et des extraits de ces conférences-là qu'il a pu entendre, relire pour nous. Et c'est quand même assez riche de voir comment les savoirs froids et les savoirs chauds, donc là je vais faire un petit peu une lepagité.
Est-ce que ça fait du tiède ?
Eh bien ça fait pas du tiède, mais non, ça fait pas du tiède, ça fait de l'orage. Quand le froid et le chaud dans météorologie se mélangent, eh bien ça fait pas du tiède, ça fait de l'orage. Et c'est pas pour rien qu'ils font ça, évidemment cet orage-là, ils le disent clairement, c'est pour essayer de faire une émulsion, quelque chose d'anticapitaliste. Et c'est ce qu'on ressent très fort quand on va à cette conférence. Mais, il y a peut-être un petit bémol. La conférence qu'on a vue hier était très marqué sur le côté recherche individuelle de pourquoi on milite, quelle est notre place dans le monde, comment on peut nous-mêmes essayer de changer l'état de ce monde-là. Et ça avait un petit côté quand même, malgré la critique du capitalisme, un côté, les luttes ne doivent pas forcément être collectives. Il y avait vraiment le nouvel engagement d'aujourd'hui, un engagement très jeune, il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, et on sentait que l'engagement d'aujourd'hui, c'est quand même un engagement de chacun fait sa part à sa propre sauce, mais on ne recherche pas obligatoirement l'engagement collectif.
Ça, ça t'a pas trop plu, ça, non ?
Ben, disons que ça, ça m'a un peu inquiété. Par exemple, il raconte l'histoire du colibri, vous voyez cette petite histoire-là ? C'est, donc, ça se passe dans une jungle magnifique où tous les animaux vont très très bien, puis d'un coup, il y a un énorme incendie, et l'incendie va complètement détruire la forêt, les animaux vont partir tous les uns après les autres le plus vite possible en écrasant tous les autres, évidemment, parce qu'ils subissent cette panique, jusqu'au lac. Et au lac, ils se regroupent, ils comptent les morts, ils comptent tous les blessés qu'il y a pu avoir dans cet incendie, qui continue à avancer tout doucement. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a un truc un peu bizarre. On entend un piou 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 piou. Merci. Et c'est en effet, quand t'as su, un colibri qui vient prendre ses trois petites gouttes d'eau dans le lac et qui repart dans l'incendie, qui jette trois petites gouttes d'eau, qui revient, qui repart dans son lac, qui reprend ses trois petites gouttes d'eau, qui continue. Et d'un coup, les autres disent, mais qu'est-ce que tu fous, ça va pas bien. Alors je vous passe, parce que c'est beaucoup plus long dans la pièce de théâtre. Et en fait, lui répond, moi, je fais ma part pour sauver la forêt. Et donc, l'idée de base de cette petite morale, c'est évidemment de faire que tout le monde fasse un peu sa part pour essayer de sauver cette planète, de sauver les inégalités sociales. Mais à travers cette belle fable quand même, on sent bien qu'il y a une difficulté à ce que tous les colibris se fédèrent, à ce que tous les colibris...
Mieux que ce soit les éléphants qui se fédèrent.
Voilà, à ce que les colibris aillent fédérer les éléphants. Et donc c'est peut-être la petite limite qu'on peut sentir derrière, enfin à mon goût, c'est qu'il manque, voilà, il manque la belle grosse trompe d'un éléphant qui vient d'arrêter cet incendie. Voilà ma petite critique de Alex Somoza.
Bon, ben merci Jean-Jacques, c'est toujours un plaisir tes chroniques.
O-A-Q-A-D, Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire. Mais justement, nous, on a quelque chose à dire.
O-A-Q-A-D, Wakadi.
Pas de côté sur l'actualité sociale.
Nous sommes donc sur Radio Clapas, l'émission Wakadi, on a quelque chose à dire, avec comme invité aujourd'hui Maurice Sanson, retraité cheminot, responsable du dossier retraite à la Fédération CGT. Et évidemment, je l'ai annoncé de fait, c'est qu'en fait, on va parler retraite. Quand on vous a invité, on avait deux idées en tête. C'est à la fois, on savait que vous alliez pouvoir nous expliquer la question du système de répartition des régimes spéciaux de façon un peu plus pointue peut-être que ce qu'on a l'habitude d'entendre et que ce que nous on connaît.
Et puis on ne va pas vous dire la deuxième, hein, parce que ça ne se dit pas sur la radio.
Et la deuxième, on fera une autre émission peut-être, ouais. Voilà, c'est comme on dit chaque fois. Non mais on va déjà démarrer par ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous relancer dans ce sujet brûlant, puisqu'on sait que demain il y a de nouveau une mobilisation, à nous rappeler un peu cette historique, d'où ça vient cette histoire de
la répartition.
De la répartition et des régimes spéciaux.
Ben, la répartition, d'abord le principe même, c'est l'idée que les actifs, par leur cotisation, payent directement les retraites des retraités du moment. Autrement dit, on ne met pas de l'argent de côté. On le dépense immédiatement pour payer les retraites et les actifs acquièrent des droits sur les générations qui suivent. On a donc un système intergénérationnel. C'est un principe de solidarité entre les générations. Alors ce système n'a pas toujours existé, puisque les premiers régimes de retraite en France étaient fondés sur la capitalisation. Et c'est sur la faillite de la capitalisation.
La capitalisation, c'est-à-dire je mets des sous de côté.
Je mets des sous de côté, style caisse d'épargne pour simplifier. Je mets de l'argent de côté qui éventuellement rapporte ou pas, suivant le marché financier. Et à la fin, eh bien, avec cette épargne...
Le bas de l'âge.
J'ai ma retraite, voilà. Eh bien, ce système a fait faillite. Du fait de l'inflation, de tout ce qui s'est passé sur les monnaies, etc., ce système a fait faillite, les retraités dans la misère, et donc à la libération, alors que la France était économiquement exsangue, eh bien, on a créé effectivement ce système par répartition. Et depuis, il fonctionne. Il a eu existé dans quelques autres régimes, les régimes spéciaux avant, mais le grand démarrage de la répartition, c'est quand même en 1945. Voilà. Donc, les régimes spéciaux, pour les situer, il faut savoir que ce sont des régimes, c'est les premiers régimes qui ont été créés en France, puisque l'histoire des retraites en France, elle remonte à 3 siècles, en gros. Le premier régime, c'est Colbert, c'est celui des marins, en 1674. Et donc, pendant 3 siècles, les régimes se sont progressivement créés pour arriver, en gros, au régime général à la libération. Donc, les régimes spéciaux, c'est ceux qui se sont créés avant, qui existaient avant, qui servaient des droits supérieurs à ce qu'on a pu faire à la libération. Et ils ont survécu à cette époque.
Alors, il y en a combien de régimes spéciaux ? Parce qu'on dit souvent ça, mais c'est très, très diversifié.
À l'heure actuelle, il y en a en gros 120. À peu près, parce que le nombre exact est difficile à établir, mais il y en a en gros 120.
Ah, c'est beaucoup de spéciaux, quoi.
Oui, ouais. Mais...
Par exemple,
en fait, il y en a 13 ou 14 qui fonctionnent. C'est-à-dire que les autres, ce sont des régimes qui sont ce qu'on appelle en voie d'extinction. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui adhère. Et donc, quand...
Style les mines, ce genre de choses
non, oui, non, c'est plutôt des régimes... Bon, il y a celui des tabacs allumettes, par exemple, parmi les derniers fermés. Puis il y a beaucoup de régimes de l'ancienne Alsace.
Les tabacs allumettes.
Oui.
Ça, c'est
le Seita, l'ancien Seita. Voilà. Et donc, en fait, il y a beaucoup de régimes spéciaux qui existent, qui sont de l'Alsace-Lorraine, qui ont été créés quand l'Alsace-Lorraine était occupée par l'Allemagne. Et c'est Bismarck qui avait créé ces régimes. Et donc, la plupart sont là. Et oui, parce qu'ils étaient bien plus en avance que la France en matière de retraite, même si Bismarck n'était pas, un démocrate et un socialiste, loin s'en faut. Voilà. Donc, cette histoire, elle vient de là. Donc, ces régimes ont une existence antérieure au régime général. Et ils servent des droits qui étaient supérieurs à ceux qu'a pu faire le régime général.
Et alors, il n'y a aucun lien entre ces 13 régimes spéciaux entre eux ? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quels sont les liens entre ces régimes spéciaux et le régime général, s'il y en a ou s'il n'y en a pas.
Alors, des liens étroits, il n'y en a pas. Chaque régime est indépendant, d'accord. Comme l'est d'ailleurs le régime général. Le seul élément qui coordonne l'ensemble de ces régimes, c'est les mises en place des compensations. Alors, il y en a deux. Hein. La compensation généralisée créée par Chirac en 1974 et la surcompensation qui a été créée en 1985 par Fabius et qui, normalement, d'après la loi Fillon de 2003, doit disparaître au 1er janvier 2012.
Alors, c'est quoi ça, le système de compensation ?
Alors, c'est un système où on est parti de l'idée qu'on n'a pas pu créer un régime unique. Alors, pour des raisons que je ne vais pas développer, sauf si ça vous intéresse vraiment. Mais
si vous pouvez le développer en trois mots, moi, ça m'intéresse. Pourquoi pas de régime unique ?
À la libération, les fondateurs du régime général avaient l'idée d'arriver à créer un régime unique. Sauf qu'il fallait tenir compte de l'existant, notamment de ce qu'on appelle les régimes spéciaux, qui fonctionnaient depuis très longtemps et servaient des droits importants. Alors que quand on a créé le régime général, on n'avait pas beaucoup d'argent. On sortait de la guerre, et donc on ne pouvait pas servir les mêmes droits à tout le monde, surtout à des gens qui n'avaient pas cotisé. Et donc, à partir de là, on a créé un régime général à minima. Et l'idée des créateurs de ce régime général, c'était d'arriver très rapidement à ce que tout le monde soit dans le même régime dès que l'économie le permettrait.
Un alignement sur les régimes spéciaux, en fait.
Voilà, c'était un alignement du régime général sur les régimes spéciaux de façon à les englober. Hein. Et en même temps, c'était aussi d'intégrer tous les non-salariés qui, à cette époque-là, n'avaient pas de régime. Et qui ont refusé d'intégrer le régime général et qui ont créé par la suite leur propre régime.
Alors c'était quoi les non-salariés ?
Ben, les non-salariés, c'est les commerçants, les artisans, les professions libérales, les agriculteurs, qui ont créé par la suite leur propre régime parce qu'ils n'ont pas voulu intégrer le régime général.
Donc en fait, quand on dit que les régimes spéciaux sont des privilégiés, en fait, ils existaient avant.
Oui.
Et au contraire, le but, c'était de s'aligner sur les privilégiés.
Oui, c'était le contraire de ce que veut faire le gouvernement aujourd'hui. C'était de dire, eh bien, il y a des régimes qui servent des prestations élevées. L'objectif, c'est de tirer tout le monde vers ces prestations. Et pendant un certain nombre d'années, d'ailleurs, jusqu'au début des années 90, ça a été ça. L'objectif, ça a été de monter le régime général progressivement vers les régimes spéciaux, et non pas le contraire. Et depuis, bien, on est dans le mouvement inverse, où c'est on tire tout le monde vers le bas.
Et le fondateur, parce que quand on tourne un peu autour de, des manifestations, on entend beaucoup de gens qui... On tourne autour des manifs. Les gens nous disent toujours oui, surtout les personnes âgées, oui, ce que nous a fait De Gaulle aujourd'hui, on est en train de nous l'enlever. J'aimerais bien qu'on ait une petite précision historique. Qui est à l'initiative de ce mouvement des retraites en 45 là.
Alors, l'initiative des retraites de 45 et de la sécurité sociale en général, c'est le Conseil national de la Résistance. Bon. Alors, c'est vrai que quand on regarde, il était évidemment présidé sous le contrôle de De Gaulle par Jean Moulin, mais il reprenait l'ensemble de tous les opposants au nazisme. Et on n'y trouvait pas évidemment le patronat français qui lui collaborait. C'est ce qui explique pourquoi d'ailleurs à la Libération il n'a pas pu s'opposer à la Sécu. Parce qu'effectivement il n'avait pas les forces politiques suffisantes pour s'opposer à la Sécu. Mais c'est issu du programme du Conseil national de résistance, et je peux même vous dire qu'à cette époque-là, la CGT, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'organisations syndicales qui étaient présentes au Conseil national de résistance, la CGT qui était présente, elle a beaucoup poussé, effectivement, pour avoir ce fameux programme de sécurité sociale.
D'accord, alors maintenant, comment on fait un petit compte-rendu historique. En 1974, là, vous parliez de la première modification par Chirac des régimes de compensation. Qu'est-ce alors, que ça a voilà. mené comme...
Alors, bon, donc, je disais, l'idée, c'était de dire, on n'a pas pu faire le régime unique, pour les raisons que j'ai expliquées, on n'a pas pu le faire, donc on n'a pas pu le faire, et qu'il y a des régimes où les effectifs salariés sont en diminution, des régimes qui sont en déclin, eh bien, il faut inventer un système de solidarité entre les régimes. Et donc l'idée de Chirac, c'était de créer un espèce de régime unique fictif, d'ailleurs c'est ce qui est fait, on fait un régime unique fictif qui servirait à des retraités dont d'un certain âge, on a mis la barre à cette époque-là à 65 ans, donc pour tous les retraités de 65 ans, qui servirait une prestation. Et cette prestation serait financée par une cotisation identique pour tous les cotisants de tous les régimes. Et après on organise ainsi un système de vases communicants. Donc c'est une solidarité démographique. Et qui concerne l'ensemble des régimes de retraite, aussi bien salariés, du public, du privé, que non salariés. Et ce système fonctionne donc depuis 1974, et quand on regarde, en fait, quand on regarde un peu, on voit que les plus gros, je dirais, payants, sont évidemment le régime général, puisque c'est quand même le régime le plus important, à peu près 70% des cotisants, et puis les régimes des fonctionnaires. Ce sont les régimes qui payent le plus, plus les professions libérales, mais à la marge. Et quand on voit qui est-ce qui reçoit, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement, en gros, entre 75 et 78% vont au monde agricole, 52% aux agriculteurs, c'est-à-dire des non-salariés, et le reste aux salariés agricoles, qui est un régime aussi en difficulté. Et il y en a aussi qui vont aux commerçants et aux artisans.
Et donc, il y a un lien quand même entre le fait que ce soit Chirac qui soit à l'initiative de ça et le fait que ce soit le monde agricole qui...
Ben, on peut le penser. On peut penser qu'effectivement, le fait que Chirac ait créé cette compensation, il savait très bien où il allait. Et je pense qu'il était bien en vue chez les agriculteurs. Ça a toujours été un spécialiste du monde agricole.
Et de la tête de veau.
C'est exact.
Et de la tête de veau. On vous propose une pause musicale. On se retrouve juste après sur Radio Clapas. Pour parler retraite.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus.
Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con, mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y a qu'une seule règle en somme: se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien.
Eh bien, on est toujours sur Radio Clapas, toujours avec l'émission de Wakadi, on a quelque chose à dire, et toujours avec Maurice Sanson sur une émission spéciale sur le thème des retraites. Alors, on vient d'écouter HK. HK, c'était quelqu'un du groupe MAP, qu'on aime bien aussi. Je crois qu'on aime bien beaucoup de choses à Wakadi. Et on va reprendre un petit peu notre retour sur le siècle et sur les retraites, pour ensuite venir à l'actualité très brûlante du moment. On en était peut-être aux deuxièmes modifications du régime de compensation, donc c'est en 85 avec M. Fabius. Alors qu'est-ce qu'il nous a proposé celui-ci?
Ben en 85, c'était l'époque où il y avait quand même une crise, hein, c'était même l'époque de vivre
déjà
la crise.
Déjà
eh oui, eh oui. Et alors, Fabius qui avait besoin d'argent, l'État a toujours besoin d'argent, a essayé de trouver les moyens de financer les régimes spéciaux qui étaient en déficit et de les faire financer par quelqu'un d'autre que le gouvernement. Et donc, il s'est aperçu que la caisse du régime des fonctionnaires territoriaux hospitaliers avait beaucoup d'argent.
Excusez-moi, parce que je vous coupe. Ça veut dire quoi, les faire financer par quelqu'un d'autre que le gouvernement? Le gouvernement, il n'a pas d'argent à lui-même. Donc,
Alors, le gouvernement finançait un certain nombre, le déficit d'un certain nombre de régimes.
Par les impôts?
Oui, par les impôts.
D'accord.
Il donnait une subvention, une contribution d'équilibre à certains régimes, les mineurs, les cheminots, les marins, etc. Il y avait d'autres régimes qui étaient financés, les agriculteurs aussi d'ailleurs à cette époque-là. Et donc, il a essayé de trouver quelqu'un qui finance à sa place. Et ce quelqu'un qui finance à sa place, ça a été évidemment le régime des fonctionnaires territoriaux hospitaliers, puisque ce régime avait beaucoup d'excédents, compte tenu qu'il avait une bonne démographie. Et donc, en faisant payer ce régime essentiellement, il n'y a pas que lui qui payait, mais c'est lui qui payait le plus gros, et bien effectivement ça soulageait les finances de l'État. Et donc depuis des années, et bien le système de la compensation entre régimes spéciaux a mis à bas les finances du régime des territoriaux. Mais cette compensation va disparaître en 2012.
Et ça, j'imagine, ça a dû râler du côté des fonctionnaires territoriaux hospitaliers à cette époque-là.
Ben, je pense que oui, parce qu'ils n'ont pas vu d'un bon œil que les pillent comme ça, ceci étant.
Mais en sachant que c'est annoncé comme un pillage ou comme une solidarité nécessaire?
C'est présenté comme une solidarité entre régimes spéciaux.
Pirates.
En partant de l'idée que effectivement les régimes spéciaux avaient des points communs et qu'ils pouvaient avoir une solidarité entre eux. Mais elle était calquée sur les mêmes principes que la solidarité de Chirac, avec des paramètres un peu différents et limités aux régimes spéciaux. C'est-à-dire que c'était que les régimes spéciaux, entre eux.
Bon, et alors la troisième étape, ça va être un petit peu après, donc avec Fillon, c'est ça ?
Ben, la troisième étape, c'est la troisième... Enfin, il y a eu quand même la réforme Balladur, en 93, qui a quand même enfoncé le clou fortement dans le régime général, avec des mesures qui, aujourd'hui, tirent les retraites fortement vers le bas, notamment le calcul sur 25 ans, l'allongement de la durée de cotisation, etc.
Donc là, ce n'était pas une question de compensation.
Non, les compensations, ça a été les deux seules qui ont été mises en place. Après, Balladur a enclenché une réforme des paramètres, hein, des régimes qu'a continué Fillon en 2003, avec la différence, c'est que Fillon, il a introduit en même temps le fait de la suppression de la surcompensation qui arrive au bout.
C'est quoi ça, la surcompensation ?
Ben, c'est la compensation entre les régimes spéciaux.
D'accord.
Donc, il a introduit le fait de la supprimer parce qu'aujourd'hui, ben, il n'y a plus d'argent dans les caisses des fonctionnaires territoriaux. Quoi.
Alors, refaites-nous un point, peut-être, avant qu'on enchaîne, sur comment sont calculées les retraites à l'heure actuelle en fonction de quel régime. Le régime général, on parlait des 25 années. Le régime des fonctionnaires, c'est pas la même chose.
Bon, alors c'est...
Et combien de niveaux, à combien sont les niveaux de pension aussi à chaque fois
le calcul des retraites, il obéit à plusieurs règles, suivant les régimes. Alors, il y a le calcul du régime général, qui obéit à des règles différentes que celles des régimes spéciaux, et qui obéit également à des règles différentes de ce qu'on appelle les régimes complémentaires. Alors, peut-être une particularité sur les complémentaires, c'est que les régimes spéciaux n'ont pas de complémentaires, pour la bonne et simple raison qu'ils couvrent jusqu'à 75%, alors que le régime général ne couvre le taux qu'à 50%. Et les complémentaires sont chargés de faire la différence entre 50 et 75%.
50%, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui part à la retraite, touche 50% de...
Il est censé toucher
50% des 25...
De son salaire calculé sur les 25 meilleures années depuis Balladur.
Et la complémentaire, c'est ce qui va venir compenser.
Et la complémentaire, c'est ce qui vient en plus des 50% pour arriver aux 75% des régimes spéciaux, à peu près. C'est, voilà. Sauf que ce n'est pas les mêmes régimes. Le régime général et les régimes spéciaux sont ce qu'on appelle des régimes annuités. C'est-à-dire que la pension est fonction du nombre d'années cotisées. Et chaque année amène un pourcentage supplémentaire. Tandis que les régimes complémentaires, ce sont des régimes à points. C'est-à-dire qu'avec la cotisation,
chaque
on achète des points.
Chaque trimestre, ça fait des points.
Voilà, ça fait des points. Et à la fin, le point...
Comme chez Total.
Ouais, à la fin, le point, il a une valeur de liquidation qui permet de calculer la retraite. Et peut-être une particularité sur les régimes à points, parce qu'il paraît que c'est à la mode, on veut transformer tous les régimes en régimes à points, c'est une volonté du MEDEF. Pourquoi des régimes à points ? Mais les régimes à points, ce sont les plus faciles à modifier et à baisser les retraites.
Il suffit
pourquoi
de changer la valeur du point ?
Il suffit de jouer. Alors, la valeur du point, il y en a deux, en fait, de valeur du point. Il y a la valeur d'achat, c'est-à-dire votre cotisation, je le paye combien, le point ? Et puis, il y a la valeur de liquidation. La valeur de liquidation, elle est indexée depuis 1993, elle est indexée sur les prix, comme les retraites en général. Et la valeur d'achat, elle est indexée sur le salaire moyen. Ce qui fait que vous achetez votre point toujours plus cher, mais vous le liquidez plus bas. Et donc, il y a une baisse des retraites qui se fait, sans que le salarié y voit quelque chose, puisque lui paye toujours pareil. Lui, sa cotisation, elle est la même, elle ne bouge pas. Sauf qu'il a moins de points avec sa cotisation, et le point, il vaut moins. Et à la fin, sa retraite, évidemment, sera plus basse. On peut calculer que de 93 jusqu'à 2009, la baisse de rendement, c'est-à-dire ce que rapporte un point au retraité, elle est de l'ordre de 25% pour les non-cadres.
Sur la complémentaire, là, on est.
Sur la complémentaire, et de 29% pour les cadres.
En combien ? En 15 ans ?
Ah oui, de 93 à 2009.
C'est pas mal, ça.
Pas mal, hein.
C'est pas mal.
Voilà les différences. Alors, le calcul, après, pour y revenir un peu, eh bien, effectivement, on prend un salaire de base, donc calculé dans les régimes spéciaux sur 6 mois. Alors, il faudrait expliquer pourquoi il y a eu les 6 mois, je vous le dirai si vous voulez. Calculé sur 6 mois, alors que dans le régime général, c'était les 10 meilleures années, et c'est passé, à cause de Balladur, aux 25 meilleures années. Il faut savoir que plus on allonge la période, plus effectivement le salaire baisse.
En moyenne, oui.
Parce qu'on inclut dedans des périodes parfois non cotisés, du temps partiel, etc., des périodes de maladie où il n'y a pas eu de salaire, etc., etc. Et donc tout ça, ça fait baisser. Plus on allonge, plus on fait baisser les retraites. Et donc, si on arrivait à calculer la retraite sur toute la carrière, eh ben, on aurait évidemment des retraites beaucoup plus basses, puisque le salaire qui servirait au calcul serait plus bas. 6 mois, c'est avantageux. Pourquoi 6 mois ? Ben, tout simplement parce qu'à l'origine, c'est quelque chose qui vient des fonctionnaires, parce qu'à l'origine, la création du régime des fonctionnaires s'est faite sur ce qu'on appelle la continuité salariale. C'est-à-dire que l'idée des créateurs de ce régime, c'était de dire que quand un fonctionnaire s'en va à la retraite, il faut lui assurer un revenu en correspondance avec son salaire quand il est parti. Et donc ça a été l'idée de la continuité salariale. Et donc on est arrivé sur un système, et ça a été calqué par d'autres grands régimes spéciaux qui à l'époque n'étaient pas forcément des régimes publics.
Mais alors pour vous, le régime des fonctionnaires, c'est un régime spécial ?
C'est un régime spécial. Il est répertorié dans les régimes spéciaux, même s'il a quelques particularités, puisque le régime des fonctionnaires d'État n'a pas de caisse, pour le moment. Il n'y a pas de caisse de retraite. C'est l'État, sur le grand livre de la dette, qui paye les retraites. Les territoires en ont une, mais les fonctionnaires d'État n'en ont pas.
Alors quand on dit continuité du salaire, ça part sur les 6 derniers mois, on est d'accord, mais ça reste que 75% des 6 derniers mois.
Ah oui, ça reste 75%, le maxi. Voilà. Et à condition, à l'époque c'était 37,5 ans, maintenant ça progresse vers les 40 ans, voire les 41, puisque la loi Fillon nous amène à 41 ans. Hein. Mais c'était à l'époque les 75%, à condition d'avoir les 37,5 ans, demain les 40 ans ou les 41 ans. Hein. Et ces 75% du salaire qui sert au calcul des retraites où ne sont pas inclus les primes. Donc c'est pas la totalité du salaire, contrairement au régime général qui prend la totalité du salaire, y compris les heures supplémentaires ou autres.
On vous propose d'écouter un petit extrait d'une personne que vous allez peut-être reconnaître, qui nous parle un peu de ses arguments de campagne et qui donne son point de vue sur la question des retraites.
Moi j'ai voté pour le RMI et j'ai voté pour la retraite à 60 ans, que les choses sont claires.
Madame Parisot, la présidente du MEDEF, vous suggère de passer à la vitesse supérieure en doublant cette mesure, 41 années de cotisation. D'une deuxième mesure, ce serait la retraite à 63 ans et demi. Et elle dit, si on ne fait pas ça, à un moment donné, on ne pourra plus payer les pensions. Vous dites banco ?
Elle a le droit de dire ça. Je dis que je ne le ferai pas. Pour un certain nombre de raisons. Et la première, c'est que je n'en ai pas parlé pendant ma campagne présidentielle. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris devant les Français. Je n'ai donc pas de mandat pour faire cela. Et ça compte, vous savez, pour moi. Le financement des retraites est équilibré jusqu'à l'horizon 2020.
Alors la retraite à 63 ans et demi, ce qui n'a pas été dit en campagne ne peut pas être tenu, la retraite à 60 ans, il y croit.
Bon, les mensonges permanents de Sarkozy, bon, on ne va pas y revenir, il en a dit d'autres, hein. La retraite à 60 ans, c'est 63 ans, c'est une vieille idée de Madame Parisot. Elle va aller d'ailleurs beaucoup plus loin. Là, c'est une étape pour elle, 63 ans. Hein. Je rappelle qu'un des patrons du MEDEF qui l'a précédé, c'était 70 ans la retraite. Hein. Donc vous voyez qu'elle a encore de la marge. Donc oui, mais c'est toujours le même motif, on ne pourra pas payer les retraites. Donc la réalité, c'est est-ce qu'on pourra ou est-ce qu'on ne pourra pas payer les retraites.
Le trou, vous nous avez dit il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 minutes qu'il y avait des caisses qui n'avaient plus d'argent.
Oui.
Certaines qui ont été pillées, d'autres qui... Donc évidemment, comment...
Mais il y a effectivement des régimes déficitaires, il y a quelques régimes excédentaires, mais il y a beaucoup de régimes déficitaires. Globalement, le système de retraite français est actuellement en déficit. Alors le déficit actuel, il y en a quand même à peu près 60% qui résultent des problèmes liés à la crise. Le reste est un problème
c'est
structurel.
C'est-à-dire, le problème lié à la crise, c'est quoi ?
La crise, elle s'est traduite par quoi ? Par la pression sur les salaires, par des licenciements, des suppressions d'emplois, etc.
C'est-à-dire qu'il y a moins de salaires, il y a moins de cotisations.
Moins de cotisations, et donc les dépenses, elles n'ont pas baissé. Donc, effectivement, bon.
Vous allez dire qu'il y a encore 3 ans, juste avant la crise, il y avait très peu de déficit ?
Il y avait très peu de déficit. Il a même été excédentaire pendant de longues années. Et le déficit a commencé à apparaître juste avant la crise. Mais c'est un déficit structurel, que tout le monde savait qu'il allait arriver s'il n'y avait pas de mesures prises, qui est lié au problème démographique. Parce qu'on a quand même un problème démographique en France, qui est sans doute moins important d'ailleurs que dans d'autres pays, grâce à la natalité française. Mais on a un problème qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de retraités, pour deux raisons. Plus de retraités, d'abord, un, parce qu'effectivement, on a l'arrivée à la retraite des générations nombreuses qui sont nées après la guerre, ce qu'on a appelé les générations du baby-boom, qui font qu'elles sont plus nombreuses que les précédentes, et donc ça fait plus de retraités. Et le deuxième élément, c'est l'allongement de l'espérance de vie, qui est une réalité dont personne ne sait si elle durera ou si elle ne durera pas.
Alors, en parlant d'arguments démographiques, on souhaiterait vous faire écouter un extrait d'une conférence, ça s'appelle une conférence gesticulée, faite par Franck Lepage, je crois qu'on en a parlé, au début de l'émission.
Ah, c'est Jean-Jacques qui l'a cassé, et ce morceau.
On écoute ça ensemble, et puis ensuite on écoute votre réaction et on vous laisse continuer votre démonstration.
Est-ce que vous vous rappelez, nous avons tous reçu du temps de Raffarin une lettre nominale dans mon boîte à lettres. Vous l'avez reçu, je l'ai reçu en mon nom. Et dans cette lettre que nous a envoyé le gouvernement qui faisait un effort de pédagogie, il y avait un petit schéma. C'est très très simple. Il y avait trois petits bonhommes qui payaient la retraite de deux petits bonhommes. Il y avait trois jeunes qui payaient trois vieux. Et on nous disait dans 40 ans, 40, il n'y aura plus que deux jeunes, mais on va avoir trois vieux. Et là j'ai dit, on ne peut rien faire, c'est l'arithmétique. On ne peut pas descendre dans la rue contre l'arithmétique, c'est débile. Non, à l'arithmétique. Et Fillon l'a rappelé, hein, il a dit les mobilisations dans la rue ne changeront rien au problème démographique. Il y a un problème démographique. Oh, ouais, ça m'a coupé les pas ce truc-là, je dis bah ouais, c'est baisé, c'est bon. On n'aura pas de retraite, on ne pourra pas les payer, puisque 2, 3, 3, 2, ouais. Puis là, je suis tombé sur un mec, Bernard Friot. Là, Bernard Friot, il m'a dit, mais t'es con ou quoi? Je dis, Bernard, comment tu me parles? Enfin, en gros, c'était l'idée, hein, du dialogue. Il est docteur en économie, docteur. C'est un monsieur. J'ai dit, chut, et donc, il m'a dit, mais si ton raisonnement, si tu marches dans ce raisonnement, alors c'est très simple. En 1945, il y avait 15 millions de paysans pour nourrir 30 millions de Français, et on savait qu'en 2010, il n'y aurait plus que 1,5 million de paysans pour nourrir 50 millions de Français. Donc, on peut prédire la famine pour 2010. Je dis, oh, qu'est-ce que tu me fais avec tes paysans, là? Je dis, oh, vas-y, lâche-moi, je prends la tête, là, avec cousin, c'est pas bon, ça. Je dis, quoi, tes paysans? Puis en plus, c'est débile, ton truc. Ben, il me dit, pourquoi? Mais je dis, parce que tu prends pas en compte les gains de productivité des paysans. Puis là, il me regardait avec un petit sourire. Je dis, Gustave, me regardait comme... Puis là, j'ai dit, oh, putain. Prends le con. Mais que je suis con. Oh, que je suis con. Mais je peux être con. Je me vomirais.
Parce qu'effectivement, ce qui n'est pas dit dans le petit dessin de Raffarin, c'est que comme la richesse produite en France augmente, et d'ailleurs la productivité de chacun d'entre nous aussi, vous savez qu'on est dans les meilleurs du monde en productivité.
Le meilleur.
C'est que les deux qui sont dessinés là, ils sont sur la base de 1993, en fait. Hein. Mais en fait, les deux de 2040, ils produiront comme quatre aujourd'hui. D'accord ? Ils produiront autant de richesses que quatre aujourd'hui.
Alors, on est toujours sur Radio Clapas, toujours une émission spéciale sur les retraites avec Maurice Sanson. Et on vient d'entendre Franck Lepage qui nous démontre alors que grâce aux gains de productivité, l'argument démographique que nous avance le gouvernement toute la journée, consistant à dire qu'il y a moins d'actifs pour plus de retraités, vont faire qu'on ne pourra pas payer les retraites. Vous, tout à l'heure, vous avez quand même laissé penser qu'en effet, ça pose un vrai souci démographique, la constitution de la démographie française.
Alors,
démographie française, je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas savoir dire. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est vraiment un souci qui fait qu'on n'arrivera pas à équilibrer, ou vous pensez qu'il y a moyen de mettre ça quand même, que ça tourne pour tout le monde?
Non, la démographie est une réalité. Ceci étant, c'est pas un problème insurmontable. Contrairement à ce que dit le gouvernement, c'est pas un problème insurmontable. D'ailleurs, depuis l'évolution démographique, elle n'est pas nouvelle. Ça fait des années qu'elle dure. Si on regarde l'évolution de l'espérance de vie sur le siècle dernier, on voit pratiquement que l'espérance de vie depuis le début du siècle, elle a doublé. Et puis, malgré tout, si on regarde depuis 1900, on a doublé l'espérance de vie. On a augmenté les salaires, on a baissé le temps de travail, on a créé la sécurité sociale. Autrement dit, depuis le début du siècle dernier, les salariés français travaillent moins et gagnent plus.
Mais peut-être qu'on a exagéré, non ?
Non, on n'a pas exagéré. Parce que c'est la productivité qui a permis tout ça. Et ça s'est fait de manière tout à fait naturelle par l'augmentation de la productivité, l'augmentation des salaires et l'augmentation du financement. Et on a pu effectivement faire face à un certain nombre de choses. Aujourd'hui, le MEDEF a une position très dogmatique qui dit pas un sou de plus pour les retraites. À partir de là, ben, la démographie elle va permettre elle va faire augmenter le nombre de retraités. Si le nombre de cotisants stagne et que les cotises ne bougent pas, eh bien, effectivement, il y a un problème. Et le problème, c'est ça. Alors, comment on veut le résoudre ? Ben, le gouvernement d'aujourd'hui, il dit pour le résoudre, je suis d'accord avec le MEDEF, j'augmente pas les cotises, et donc, à partir de là, je vais baisser les retraites. Baisser les retraites des futurs retraités, c'est-à-dire des actifs actuels, et baisser aussi les retraites des retraités d'aujourd'hui, qui sont déjà retraités.
Oui, mais augmenter des cotises, ça a une limite. On ne peut pas non plus augmenter de manière exponentielle les cotisations sur le salarié.
Mais je n'ai pas parlé de cotisation forcément sur le salarié. La cotisation, c'est un ensemble. La cotisation, elle fait partie du salaire, de toute façon. On parle toujours des charges patronales, mais c'est un terme impropre. La réalité, c'est des cotisations dites patronales, mais qui sont fondées sur le salaire. Et donc, ces cotisations, on peut les augmenter. On peut les augmenter parce que la valeur ajoutée augmente grâce à la productivité. Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis en gros le début des années 90, qu'est-ce qui se passe ? La productivité augmente, la valeur ajoutée augmente. Qui est-ce qui récupère les gains de productivité ? C'est les actionnaires. Il faut changer cette logique et avoir un autre partage de la valeur ajoutée. Et dans l'extrait que vous avez fait entendre tout à l'heure, c'est ce que dit l'intervenant. Il dit on peut le faire. On peut effectivement faire face à la démographie parce que d'ici à 2050, et le rapport du corps le dit clairement.
C'est le conseil d'orientation.
Le conseil d'orientation des retraites, dans son rapport, il dit clairement que d'ici 2050, la productivité, elle va doubler, que la valeur ajoutée créée, les richesses créées dans le pays par les salariés vont doubler, et qu'à partir de là, on peut à la fois augmenter les salaires et augmenter les retraites, et non faire ce que fait le gouvernement. Donc c'est un choix de société, c'est un choix. C'est pas ce choix-là qu'a fait le gouvernement actuel, lui il a fait le choix, au contraire, de réduire.
Donc c'est pas un choix simplement dicté par un contexte démographique particulier, la crise et tout ça, c'est aussi un choix politique qui engage l'avenir, parce qu'on entend dire déjà que cette réforme ne suffira pas.
Non, suffira pas, puisque le gouvernement lui-même, dans son projet de loi, qu'il est en train de faire discuter, il a acté qu'il en fallait une nouvelle en 2018. Donc il sait qu'il est conscient qu'elle ne suffira pas. Mais bien sûr qu'elle ne suffira pas, parce qu'on ne s'attaque pas aux vrais problèmes de fond. Ni la réforme Balladur, ni la réforme Fillon, ni cette nouvelle réforme s'attaquent au problème de fond, qui est celui de qu'est-ce qu'on fait pour financer les retraites, c'est-à-dire que veut consacrer le pays aux retraites. Tant qu'on ne posera pas le problème du financement des retraites, eh bien après toutes les autres mesures, ça sera des cataplasmes. On ne réglera rien du tout. Temporairement, on colmatera une brèche, mais ça peut pas marcher.
Et donc ça veut dire que vous, à la CGT, puisque vous êtes là, on vous rencontre parce que vous êtes quand même quelqu'un de spécialiste sur la retraite à la CGT, vous proposez des alternatives ?
Oui, la CGT a fait des propositions qui sont partagées par un certain nombre d'économistes, pas forcément par tout le monde, mais surtout pas par le MEDEF, mais qui fondent sur un problème de fond, c'est-à-dire une modification fondamentale des cotisations patronales. On voudrait qu'on sorte de ce qui se passe aujourd'hui, où la petite entreprise qui a beaucoup de salariés et qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, et la grosse entreprise comme Total par exemple, qui n'a pas beaucoup de salariés, qui fait énormément de valeur ajoutée, eh bien effectivement en matière de cotisation, ils payent pareil. Et ça, c'est pas normal. Donc nous, on veut inverser cette situation, et on veut avoir une cotisation qui ne soit plus en taux uniforme, mais qui soit effectivement modulée en fonction de la richesse créée dans l'entreprise, et en fonction de la masse salariale dépensée, c'est-à-dire de l'emploi et des salaires payés. Et plus l'emploi et les salaires payés seront importants dans la valeur ajoutée, plus le taux de cotisation sera bas, et évidemment le contraire, c'est-à-dire que les entreprises qui supprimeront des emplois, qui maintiendront les bas salaires et qui feront beaucoup de valeur ajoutée, ben elles payeront beaucoup plus cher.
Mais ça c'est réaliste, c'est ça, comment on contrôle ça ?
Il y a des comptes d'entreprise chaque année qui donnent les valeurs ajoutées créées entreprise par entreprise. Il y a les comptes de la nation qui les donnent par branche, etc.
Mais quand vous introduisez l'argument de dire qu'il y a des qui maintiennent des bas salaires, qui patati, oui, qui patata, comment on contrôle ça alors qu'on sait à l'heure actuelle que déjà enfin, l'inspection du travail qui est par exemple chargée de contrôler un certain nombre de choses n'a pas les moyens de fonctionner. Comment on va pouvoir...
Attendez, quand je parle de bas salaire, c'est le rapport entre la masse salariale et le nombre de salariés
dans
l'entreprise. C'est un salaire moyen. Hein. Donc on a tous ces éléments de contrôle existent aujourd'hui dans les entreprises. On a les moyens de le faire. D'ailleurs, la comptabilité nationale le reprend. Hein. On n'invente rien. Donc on peut effectivement introduire cette modification, cette modulation de la cotisation. Alors après, il y a d'autres mesures. Il y a celui que les finances que font les entreprises en spéculant plutôt qu'en investissant, on veut leur faire payer des cotisations. Il y a l'abrogation de toutes les mesures en faveur de l'exonération de cotisations, etc. Hein. Il y a beaucoup d'autres mesures qui sont... Mais la mesure de fond, c'est quand même modifier la cotisation patronale pour favoriser l'emploi et les salaires au détriment, effectivement, des profits réalisés par les entreprises.
D'accord. On vous propose de faire une pause musicale avec le temps de réfléchir à tous ces profits réalisés, à comment on va pouvoir taxer tout ça. On écoute et on revient après.
C'est bien que tout ça c'est du guignol, suspendu au crochet du boucher. Alors ne traînons pas qu'on en rigole, gole, 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 de cette mascarade empaquetée que nous livre la bonne société. Le reste n'est qu'à faire de branquignol, gnole, 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 gnole. Il y a toujours eu les uns et puis les autres, il y aura toujours du pain pas pour les autres. La miche bien dorée, moi j'en raffole, folle, 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 folle. Deux, trois gouttes bien après, si flottante, tu rentres du cabaret, chancelante, chancelante. Tu sais bien que tout ça c'est de la bricole, du précaire emballé, c'est pesé. Les éclats d'une vie qu'on rafistole, tolle, 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 tolle. On avait pourtant pressenti la chose tant pressant pour qui on a fait livrer tant de chair à la casserole, rôle, 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 rôle. Alors on s'engagea sans yeux ni bras, on rampera même s'il le faudra, mais on ne loupera pas la farandole, dans le dole, dans le dole, dans le dole. Ne laissons pas les chacals brouter nos idéaux. Ne laissons pas les chacals brouter nos idéaux. On sait bien que tout ça c'est à l'école, quand tombent les quatre vérités. La vérité de toi que tu racoles, colle, 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 colle. Quand 2 fois 3 et 4 plus 2 ne font pas 6, et qu'on voyage les poches crevées, vous ne vous trompez pas, elle est bien folle, 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 folle. Chevauchant des chevals jamais dressés, pissante à la face du monde entier, elle buissonne la ronde et puis s'envole, vole, vole. À petit pas va la saison, à Paris ton passé, qu'est-ce qu'il te reste? Un sentiment mal accroché, hier c'était les communistes, demain j'ouvre le magasin. Car j'ai dans mon placard un gros pactole, d'histoire qu'il est temps de débroussailler, avant qu'il ne m'affuble en camisole, zole, 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 zole. Dans cette bouillabaisse faisandée, on s'est mis dans une foutue purée, le nez pas dans le vent mais dans la colle, 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 colle. Alors on s'invita dans l'au-delà, on rêvera même s'il ne faut pas, mais on ne loupera pas la farandole, dole, 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 dole. Ne laissons pas les chacals brouter nos idéaux. Non, ne laissons pas les chacals brouter nos idéaux. On sait bien que tout ça c'est du guignol, suspendu au crochet du boucher. Alors ne traînons pas qu'on en rigole. Golgol, 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 golgol. Mais ne laissons pas les chacals brouter nos idéales.
Toujours sur Radio Clapage, j'ai été moi-même surpris par cette musique et la reprise musicale derrière. Donc on est toujours sur Radio Clapage, toujours avec Wakadi, on a quelque chose à dire. Et on est toujours avec Maurice Sanson de la CGT, on parle des retraites. Alors, on a entendu les propositions d'alternatives au financement aujourd'hui proposé par le gouvernement, donc faites par la CGT. Et je crois que ces alternatives, elles sont pensées par la CGT, vous le disiez tout à l'heure, par d'autres organisations. Et en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même un dénominateur commun, c'est que les gens refusent assez fortement la contre-réforme ou la réforme qui est détestée. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui là ? Qu'est-ce qu'on va devoir réaliser tous ensemble pour essayer de résister à ce qu'on nous propose ?
Ben, l'objectif, bon, il y a une journée d'action demain, on verra ce qu'elle donnera, mais l'objectif c'est de rassembler le plus possible de salariés, qu'ils soient actifs, chômeurs, retraités, contre évidemment la retraite du gouvernement, avec un objectif de lui faire retirer sa retraite de façon à discuter d'une autre réforme. Parce qu'une réforme est nécessaire, mais pas celle qu'on nous propose. Nous on veut réformer le financement, parce qu'il faut commencer par là, et effectivement avoir une autre réforme.
Mais est-ce que ça suffit? Parce que les gens, ils se sont mobilisés par exemple en 2003 et ça n'a pas empêché la réforme de se faire. Donc c'est vrai que là, ils sont un peu désabusés face à la détermination de ce gouvernement qui nous répète qu'il ne cédera pas.
Ben, il ne cédera pas tant qu'il y aura pas assez de monde dans la rue et tant qu'il y aura pas assez de monde dans l'action. Il est clair que 3 millions, c'est pas suffisant. Il faut monter à plus que ça, il faut arriver effectivement à ce que ce soit un mouvement de masse. Et comme l'a souligné Bernard Thibault, aucun gouvernement ne peut résister à un mouvement de masse. Et s'il y a suffisamment de monde dans l'action, il sera obligé de faire des concessions. Si effectivement on stagne ou qu'on régresse, bien on sera en difficulté. Je crois qu'il faut, il faut le regarder en face.
Mais alors comment on les convainc, ces salariés, à venir manifester, à perdre des journées de grève? Comment on arrive à leur dire que c'est indispensable?
On perd des journées de salaire, tu ne perds pas une journée de grève.
Ah oui, on gagne une journée de grève. Ouais. C'est beau ce que vous me dites.
Ben, je crois que ce qu'il faut leur dire, c'est qu'ils jouent leur avenir. Et que travailler plus longtemps, ça pèsera. Et qu'aujourd'hui, ça vaut peut-être le coup de perdre un peu d'argent dans des journées d'action. Parce qu'on le récupérera beaucoup plus tard, et je dirais de manière plus importante. Maintenant, bon, convaincre, c'est aller tous les jours dans les discussions, dans les entreprises, et essayer de gagner un à un les salariés. C'est le travail que font tous les militants. Et, ma foi, on essaie d'y arriver.
Est-ce que vous pouvez décrypter un peu pour nous ce qui se passe dans l'intersyndicale, ou ce qu'on entend dans les médias un peu partout, c'est qu'en fait il y a une intersyndicale qui fonctionne sur quelque chose d'à minima, en fait, c'est-à-dire avec quelque chose, une entente commune à minima qui permet d'afficher l'intersyndicale, mais qu'à la moindre occasion, certainement, cette intersyndicale risque de voler un éclat, et pour le coup les perspectives de lutte que vous décrivez, et après peut-être on rentrera dans les modes de lutte aussi.
Bon, c'est très compliqué l'intersyndicale, parce qu'il y a plusieurs organisations et que chaque organisation a ses propres... Donc effectivement, l'intersyndicale, il y a des positions différentes dans l'intersyndicale. Le problème, c'est que si on veut gagner, on a besoin d'unité syndicale. S'il n'y a pas d'unité syndicale, c'est-à-dire que si chacun tire la couverture à lui, on va à l'échec tout droit, c'est une certitude. Le passé le montre largement. Donc on a besoin d'une intersyndicale. Et donc dans ces réunions, j'y suis pas, hein, mais dans ces réunions, effectivement, chacun fait ses propositions et puis il y a un accord sur, oui, on peut appeler ça un minima, je ne sais pas si c'est vraiment un minima, mais il y a un accord sur des perspectives, chacun essayant de trouver un compromis.
Mais on sait ce qu'on entend, on sait qu'il y en a qui demandent le retrait pur et simple, et puis voilà. Il y en a d'autres qui disent ce que fait un peu la CGT, ce que fait la CFDT aussi, en disant, mais nous, on pense qu'il faut une réforme, peut-être à la marge, on sent que la CFDT, sur quelques questions, serait prêt à dire, bon, mais ok, c'est bon, ça suffit, là. On peut s'arrêter là, quoi.
Ouais, bon, alors, l'histoire, je connais l'histoire de il faut retirer la réforme au point. De toute façon, c'est une position intenable, retirer la réforme au point. Ça veut dire qu'il faut quelque chose derrière. Donc, le retrait de la réforme en lui-même, il ne se suffit pas. La CGT a posé la question en disant, nous, ce n'est pas le retrait de la réforme, c'est pour une autre réforme. On se bat. Donc c'est ça, mais c'est pas fondamental la différence.
Il y a l'analyse politique que vous avez tenue.
Après, c'est plutôt des concepts, je dirais, de chapelle, parce que bon, faut pas oublier que dans les discussions intersyndicales se jouent aussi des fois d'autres éléments.
Des enjeux de place,
des enjeux de stratégie sur la représentativité syndicale, etc. Et je crois que ce soit du côté de certaines organisations syndicales, on le sent bien. Si je vous parlais de la stratégie d'FO, par exemple, bon, on voit bien qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de jouer. C'est leur représentativité nationale qu'ils sont en train de jouer. Bon. On le sent bien, pourquoi ils sont toujours en marge. Ils participent, mais ils restent en marge.
Ce que je ne comprends pas, c'est que vous-même, alors vous nous avez expliqué ce que dit la CGT sur la réforme qu'ils proposent, mais il y a notamment l'extrême gauche qui dit ce que vous avez défendu vous-même en disant la répartition de la richesse produite à l'heure actuelle entre le capital et le travail a changé. Rétablissons. C'est-à-dire, on sait qu'elle a évolué et que la part redistribuée aux salariés a changé depuis un certain nombre d'années. Il y a des économistes qui disent il suffirait de la rétablir telle qu'elle était, ne serait-ce qu'il y a 15 ans, et les systèmes qui sont à l'heure actuelle déficitaires redeviendraient excédentaires. Donc, de réforme, il n'y en a pas besoin si ce n'est celle-ci. Voilà. Et eux, ils s'arrêtent là.
Oui, mais comment on fait pour réformer ? On ne décrète pas qu'on nous a piqué 10% de partage de la valeur ajoutée, il faut les rendre aux salariés. Comment on les rend ? Sous quelle forme ? Comment ça se passe ? C'est là qu'il faut mettre sur pied un certain nombre de propositions. Quand je vous ai proposé tout à l'heure de modifier la cotisation patronale, elle va dans ce sens, c'est-à-dire avoir un autre partage de la valeur ajoutée. Il faut des propositions concrètes, on ne peut pas décréter comme ça, hop, non, on ne va pas dire on prend, mettons, 150 milliards dans la valeur ajoutée, on les distribue, non, ce n'est pas ça. Il faut des propositions concrètes, il faut que ce soit matérialisé par des règles. Et c'est ces règles qu'il faut imposer au gouvernement et qu'il faut discuter.
Alors comment parce que j'ai du mal à... Autant j'entends ce que vous dites en disant on ne peut pas le décréter comme ça, autant comment par le mécanisme de la retraite tel que vous le proposez, on va arriver à atteindre cet objectif-là, toujours le même, c'est-à-dire une nouvelle répartition de la richesse produite.
Mais comment on va y arriver? D'abord, il ne faut pas modifier les critères d'âge, les bornes d'âge de 60 et 65 ans, il ne faut pas les modifier. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est engager une réforme, effectivement, des financements, avec les propositions que j'ai formulées tout à l'heure, et qui vont effectivement modifier. Troisième élément, c'est évidemment développer l'emploi, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays, on souffre d'un manque d'emploi, et le financement de la protection sociale, il pose problème, parce que des emplois en plus, c'est des cotisations en plus, donc c'est des financements en plus. Donc, il y a l'emploi, les cotisations, il y a l'emploi.
Je crois que là, c'est le même principe que tout à l'heure. Comment on peut décréter que les entreprises embauchent plus ?
On ne va pas décréter que les entreprises embauchent plus. C'est se battre pied à pied contre la fermeture des entreprises, l'amélioration des conditions de travail, etc., la baisse du temps de travail, créer des emplois, éviter les délocalisations, etc. Il y a tout un tas de mesures à prendre dans ce sens. Le gouvernement, il n'agit pas là-dessus.
Mais ça, est-ce que c'est des mesures à prendre ou est-ce que c'est justement aux salariés, aux personnes qui travaillent, à se mobiliser ? Et du coup, y compris par la grève, avec les limites qu'on a vues peut-être tout à l'heure pour certaines personnes, on ne peut pas non plus la décréter, la grève générale.
Malheureusement, personne n'est en capacité de la décréter.
Même si, moi, ce que vous dites là, ça me fait penser à ça. Me dire finalement, la seule façon, c'est dans chaque entreprise, dans chaque usine, il va falloir à un moment donné se mobiliser. Et la mobilisation, on sait que le patronat en général ne recule pas simplement parce qu'il y a des salariés qui leur disent ou des organisations syndicales qui disent ben, finalement on n'est pas d'accord.
Ben, l'histoire a montré que chaque fois que les mouvements ont été suffisamment puissants, que ce soit le patronat ou soit le gouvernement, ils sont venus à la table des discussions et ils ont été obligés de faire des grandes concessions. Quand on regarde historiquement, c'est comme ça. Sauf qu'il faut arriver à avoir un grand mouvement. Et la grève générale, il ne suffit pas d'en parler. Faut-il la construire ? Et je crois que le gros problème, il est là aujourd'hui. C'est qu'il y en a qui en parlent sans arrêt, mais qu'est-ce qu'ils font après pour la construire ? Nous, on essaie de notre côté, tout à l'heure, j'entendais parler du colibri, on essaie de notre côté, effectivement, de mobiliser les salariés et effectivement de les amener à se battre, à se syndiquer, à se battre et à développer la lutte. Mais après, on construira ce qu'on arrivera à construire. On ne fera pas à la place des gens.
On va vous interrompre parce qu'on entend cette petite musique qui signe la fin de l'émission. Donc on arrive à la fin de cette émission. J'ai quand même
par définition de la petite musique qui...
J'ai qu'à me répéter si je veux. On vous remercie, Maurice Sanson. Et peut-être qu'il faudra qu'on fasse une autre émission, comme on le dit traditionnellement, sur cette question de la lutte et des moyens de lutte qu'on engage ou pas. On remercie Radio Clapas. Je vous remercie à vous. Merci à Galad pour la technique. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Wakadi, wakadi.free.fr. On vous dit à bientôt, peut-être à Manif. Et quand vous écouterez, vous aurez peut-être des éléments nouveaux, vu que cette émission est enregistrée le 11 octobre, on vous le rappelle.
Vous serez peut-être en grève générale depuis une semaine. Yeah.